débat du jour.
Romain Ouzoui, sur l'air de RFI Musique.
Voilà, et vous retrouverez dans les prochaines minutes votre débat du jour consacré à la radicalisation en Tunisie, mais également en France, alors que Salah Abdeslam, un suspect clé dans les attentats du 13 novembre en France, eh bien, a été ce vendredi interpellé à Bruxelles. On y revient dans les prochaines minutes. Quelques petits soucis avec nos invités qui ne devraient pas tarder à nous rejoindre, 20h40 ici à Paris.
Sikana jonuna moko kana jonuna alukana jonuna alukana jonte itala
Voilà, bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI 20h42, ici à Paris, l'heure avec un petit peu de retard de votre débat du jour en raison d'un petit problème lié à nos invités. C'est un anniversaire qui intervient le jour de l'interpellation de Salah Abdeslam, suspect à clé dans les attentats du 13 novembre en France. Il y a un an, le musée national du Bardo, à Tunis, était touché par une attaque terroriste faisant 22 morts. La Tunisie, comme la France, cible des djihadistes. La Tunisie, comme la France, confrontée à une radicalisation importante de nombreux jeunes. Aujourd'hui, la Tunisie est le pays qui fournit le plus grand nombre de djihadistes au monde, plus de 5500 selon l'ONU depuis la révolution de 2011. Alors face à cette situation, est-ce que le pays a les moyens de lutter contre la radicalisation? C'est notre débat ce soir. Et pour y répondre, nos deux invités, tout d'abord à nos côtés en studio, il vient de nous rejoindre, Jean-Yves Moisseron, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur en économie à l'Institut de recherche pour le développement. Et en ligne depuis Tunis, qui vient de nous rejoindre, Tarak Cherrou, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste et écrivain spécialiste des affaires sécuritaires. Première question, Jean-Yves Moisseron, vous êtes à mes côtés. Quel parallèle est-ce qu'on peut faire entre la Tunisie et la France dans le processus de radicalisation?
Bah d'abord une lutte commune contre un ennemi commun, l'État islamique qui s'est installé maintenant pour la Tunisie à ses portes directes, implantation en Libye, ennemi commun qui requiert des moyens techniques et une coopération renforcée. Je crois que c'est le sens des messages qui sont envoyés à la Tunisie actuellement. La Tunisie n'avait pas de système sécuritaire qui était développé pour faire face à des menaces extérieures. Elle était, avait plutôt une tradition de sécurité intérieure. Donc elle est en voie de rectification, d'amélioration de ses systèmes de sécurité, mais c'est une situation extrêmement fragile dans laquelle, évidemment, tous les acteurs, que ce soit la France ou la Tunisie, mais aussi les autres pays européens, les pays dans le Sahel, dans la région, sont impliqués.
Mais comment expliquer qu'il y ait autant de jeunes qui se radicalisent de Tunisie et de France? Parce que on a dit donc que la Tunisie est le premier fournisseur entre guillemets de djihadistes au monde, et en France, et eh bien selon un rapport d'avril 2015, un rapport sénatorial, sur les 3000 djihadistes européens recensés dans les régions tenues par le groupe État islamique, 47% étaient des Français. Comment expliquer que ces deux pays, Tunisie et France, fournissent autant de djihadistes?
C'est d'abord l'influence d'une idéologie qui s'est développée depuis très longtemps, qu'on n'a pas vraiment identifiée comme un danger, le wahhabisme, c'est-à-dire une interprétation extrêmement sectaire de l'islam. C'est le fruit également d'interventions successives de la communauté internationale qui ont mis un profond désordre dans un certain nombre de pays. Et le troisième élément, c'est l'état de désespérance. C'est surtout vrai pour la Tunisie. Il faut savoir que dans des régions comme El Gardanne, quasiment 75% des diplômés n'ont pas d'emploi. Dans le sud tunisien, il y a des très fortes inégalités sociales. Donc la pauvreté n'explique pas tout, mais il est clair que c'est une jeunesse qui ne voit pas d'avenir et qui peut être tentée par la radicalisation.
Tarek Chertourou, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le désenchantement observé depuis la révolution de 2011 en Tunisie et le désenchantement peut-être observé dans la société française pour expliquer cette radicalisation ?
Déjà en Tunisie, de ce qui est de la radicalisation et du problème terroriste, déjà après le 14 janvier en Tunisie, on a eu quand même une déstructuration du système sécuritaire. On a eu quand même la direction de la Sûreté de l'État, qui est l'équivalent de la DST et l'ex-DST en France, qui sont des renseignements qui ont été complètement dissous. Et sans ça, sans le renseignement intérieur, c'est vrai qu'on aura beaucoup de soucis. Tous les anciens cadres de ce ministère sont aujourd'hui à la retraite. On n'est pas en train de prendre en compte leur expérience. Par la suite, le ministère de l'Intérieur a été complètement politisé. À chaque fois qu'il y avait un nouveau parti politique qui était là, à chaque fois, le problème sécuritaire n'était pas le principal problème évoqué. On est resté quand même, quand on a eu l'attentat du Bardo, l'attentat de Sousse, la direction générale de la Sûreté nationale, qui est la direction générale de la police, n'avait pas de commandement. On est resté sans directeur général pendant plusieurs mois et on a vécu plusieurs attentats. Il y a eu un problème de structuration. Après, quand on parle de moyens, non, la Tunisie détient bien des moyens.
Mais est-ce qu'il y en a assez ? Est-ce que les moyens sont suffisants pour lutter contre la radicalisation aujourd'hui en Tunisie ?
Les moyens, de mon sens, c'est ce qu'on voit, les moyens sont suffisants normalement, mais ils sont pas au bon endroit. Ça veut dire que on a l'expérience, on a l'expertise. Faut savoir que récemment, maintenant, ils ont commencé à s'en rendre compte et que maintenant il y a des directeurs généraux qui sont apparemment qui ont eu de l'expérience. On a fait appel à des directeurs, des anciens cadres qui sont quand même du temps de Ben Ali, du temps d'avant, qui ont repris leur place. Ils ont de l'expérience et là, on a très bien vu ce qui s'est passé à Ben Gardane. C'était préparé, c'était vraiment pour Daesh, c'était vraiment un fiasco total. Nous avions les moyens, mais pendant un moment, les problèmes politiques, les problèmes que, vous savez, la fragilité de la Tunisie, il faut savoir que aussi la Tunisie, il y a eu quand même des soutiens internationaux de ces terroristes en Tunisie. On a eu des associations qui étaient en train de financer ces terroristes. On sait très bien qu'il y a eu des forces entre guillemets étrangères qui n'étaient pas en Tunisie, qui étaient en train de les financer. Donc on a un souci de contrôle, même du point de vue financier. On n'a pas de Tracfin en Tunisie alors qu'il y a Tracfin en France. C'est tout cet ensemble de problèmes avec la crise économique, avec les jeunes, c'est vrai qu'ils se sentent abandonnés. Quand on trouve maintenant la plupart des djihadistes tunisiens, contrairement aux djihadistes français, déjà ils ne sont pas radicalisés depuis longtemps. Et en plus, il y en a plein, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de cas qui vont là-bas faire la guerre en Syrie, tout simplement parce qu'ils ont un salaire. Leurs familles sont financées par des associations, entre guillemets, en Tunisie. On a beaucoup parlé des problèmes des associations qui sont en train de financer officiellement des familles pauvres, mais réellement, elles sont en train de financer des familles qui ont envoyé leurs jeunes faire la guerre là-bas.
C'est pas le cas de la France. La France manque pas autant cruellement de moyens.
Justement, c'est pas les mêmes terroristes. D'ailleurs, vous allez voir que tous les cas d'attentats qu'il y a en France, ce n'étaient pas des Tunisiens. Et les Tunisiens qu'il y a ici qui ont fait des attentats, il n'y a pas eu de Français, ni de Belges, ni de Marocains. Et même là-bas en Syrie, ils ne sont pas ensemble. C'est plutôt des clans différents. Ils n'ont pas les mêmes idéologies. Ils ne sont pas radicalisés depuis très longtemps. Et la plupart des terroristes en Tunisie, après les événements de Ben Gardane, il faut savoir que la plupart se sont rendus. Et c'est ça ce qui est important. Parce que quand on est dans l'idéologie complètement djihadiste, c'est vraiment... s'ils font ça, c'est pour aller au paradis pour eux. Et donc, ils doivent mourir en martyrs. Ceux-là, comme Abaoud d'ailleurs, ils sont pas morts en martyrs. Ils se sont même rendus lors des négociations avec les forces spéciales tunisiennes, qui sont même spécialisées ces derniers temps lors de la négociation dans tout ce qui est religieux. Maintenant, ils sont avec des arguments religieux. Ils ont ramené leur maman, par exemple, parce que dans la religion musulmane, il faut qu'ils répondent toujours à leur mère. Pour négocier, ils se sont repentis. Alors que je suis c'est sûr que lors des négociations au Bataclan, la brique qu'ils ont eu avec les terroristes, ou bien aussi bien avec Mohamed Merah, pendant des moments de négociation, il était hors de question de se rendre pour eux. Donc c'est deux idéologies très différentes, et aussi même les terroristes sont pas les mêmes. Donc les moyens, je pense qu'il y a les moyens, et c'est aussi avant tout un problème économique. Déjà si ces jeunes n'étaient pas chômeurs, si on avait une meilleure croissance en Tunisie, je pense que nous aurions beaucoup moins de problèmes. Aussi un autre problème, c'est l'intervention d'associations entre guillemets étrangères qui sont en train de financer tous ces mouvements en Tunisie. On a du mal en Tunisie, nous n'avons pas les outils de renseignement financier adéquats.
Jean-Yves Moisson, on va vous faire réagir par rapport à ce que dit Tarek Cherrou, qui est très intéressant finalement sur les différences de profil entre les terroristes français auxquels on a pu avoir auxquels la France a pu faire face et les terroristes tunisiens, parce que c'est vrai que le point commun en tout cas, c'est que la menace vient de l'intérieur à chaque fois, parce que par exemple la plupart des attentats des auteurs du 13 novembre en France étaient français. Même chose en Tunisie pour les attentats du Bardo et de Sousse, les principaux auteurs étaient tunisiens.
Oui, je crois qu'il y a des différences, et on l'a évoqué à l'instant, c'est la dimension économique. Je pense pas que les djihadistes qui sont résidents sur le territoire français, ils sont peut-être pas dans une situation économique florissante, mais en même temps, très clairement, ils sont pas dans une situation de quasi-survie, ce qui est le cas de désespérance. Il y a des zones en Tunisie où, encore une fois, ce sont parfois des gens qui sont diplômés, qui n'ont aucune perspective d'emploi, donc aucun avenir, et ils sont insérés dans des réseaux, y compris familiaux, parfois avec la Libye.
Oui, on a l'impression que c'est que finalement en Tunisie, contrairement à la France, le choix c'est soit faire le djihad, soit migrer en Europe.
Oui, c'est ça.
Avec les risques que ça comporte.
Absolument. Et donc, ça explique que effectivement, il y a plus de repentis, que la dimension idéologique soit moindre, ou en tout cas plus perméable. C'est aussi le fait qu'en Tunisie, pays musulman, il y a encore un enseignement traditionnel de l'islam qui protège entre guillemets des dérives sectaires et radicales, ce qui peut-être n'est pas le cas de la France. Donc, on a effectivement des profils et des parcours qui peuvent être différents, et il faut évidemment en tenir compte dans les stratégies de lutte globale contre le terrorisme.
Alors, vous l'avez dit, Tarek Cherrou l'a dit également, la Tunisie, dans cette lutte-là, manque de moyens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Est-ce que, par exemple, la loi contre le terrorisme qui a été votée en Tunisie cet été, l'été dernier, est satisfaisante selon vous pour justement lutter contre la radicalisation des jeunes Tunisiens?
Je crois que malheureusement, une loi peut être très intéressante en termes de sécurité, mais elle ne suffit jamais. C'est-à-dire qu'on peut avoir des systèmes de sécurité les plus performants. La lutte contre le terrorisme, c'est quelque chose d'extrêmement difficile d'insérer, de s'infiltrer dans les réseaux, etc. Donc il y a évidemment, c'est un problème à plusieurs dimensions. À mon avis, la première des dimensions et la plus essentielle pour la Tunisie, c'est le règlement de cette guerre larvée en Libye qui dure depuis 4 ans et qui est encore une fois très proche de la Libye, très proche de la Tunisie, et donc il y a un sanctuaire à côté où on peut se réfugier, on peut se cacher, on peut avoir des armes, etc. Donc ça, c'est le premier élément.
Tarek Cherrou, vous êtes d'accord, c'est en s'attaquant à la frontière libyenne, poreuse frontière avec la Tunisie, qu'on luttera contre la radicalisation?
Écoutez, le problème de la Libye, c'est vrai que c'est un problème majeur, c'est un problème sécuritaire, c'est un problème énorme. Il faudrait imaginer quand même que lors de la révolution en Libye, Gaddafi a quand même ouvert ses stocks d'armes à la population s'est armée. Il faut essayer d'imaginer quand même un pays comme la Belgique, par exemple, ils avaient ouvert les armes à toute la population et que c'est collé à la France, il y aurait eu des problèmes sécuritaires, d'ordre terroriste et tout ça en France. En Tunisie, c'est la même chose. Mais maintenant, en ce qui est de la Libye, je pense que quand on revient par exemple à l'intervention que les gens qu'ils veulent avoir en Libye, je pense qu'il faudrait plutôt penser à une politique de formation pour une stratégie durable qu'une intervention massive. Ça veut dire les former en tout ce qui est de sécurité militaire et tout ça. C'est plutôt les aider les Libyens à combattre ce fléau de manière générale, que plutôt que d'essayer de faire une intervention massive qui risque de faire souffrir la Tunisie économiquement. économiquement. On a aujourd'hui 400 000 Libyens en Tunisie. S'il y a une intervention, on va passer de 1 million à 2 millions de réfugiés en Tunisie. En Tunisie, on a quand même des subventions, du pain, de la nourriture et tout ça, et on a des problèmes économiques. Le fait de voir arriver tous ces réfugiés, je pense pas que ça va arranger les choses. Et aussi, la Tunisie, aujourd'hui...
Réagir sur ce point-là, Jean-Yves Moisseron, hein, Tarek Cherrou, vous êtes d'accord, intervenir militairement, si les pays occidentaux intervenaient militairement en Libye, ça ne résoudrait pas le problème de la radicalisation massive des jeunes Tunisiens?
Le problème, c'est que d'abord, il y a déjà un début d'intervention, même si on le dit pas, il y a un certain nombre d'opérations au sol qui sont menées par différents acteurs. Mais il faudrait faire une émission spécifique sur la Libye. Moi, je pense que
La question, c'est que la Libye est à l'origine candidats au djihad tunisiens qui vont se former en Libye.
Oui, non, mais trouver une solution à la crise libyenne, ça mérite de longs développements. Je pense qu'il y a une erreur fondamentale qui est commise par la communauté internationale, c'est de croire que la Libye va retrouver un gouvernement d'unité nationale, ce qui est évidemment sur le plan du droit international nécessaire pour justifier une action armée, mais moi je pense qu'il faut mieux faire l'état des lieux, le constat qu'il y a maintenant deux Libyes, avec toutes les conséquences que ça introduit, et de négocier avec chacune des parties dans le cadre d'une lutte contre le terrorisme. Mais bon, c'est un autre débat. Je pense que la première solution, mais je suis d'accord sur le fait qu'une intervention armée dans le contexte actuel risque effectivement de multiplier les problèmes et d'intensifier les réfugiés libyens qui se rendraient en Tunisie. Donc je crois que là, il y a beaucoup de prudence à avoir. Mais il y a d'autres sujets pour résoudre le problème.
Et notamment l'arsenal juridique, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Tarek Cherrou, on continue à faire ce parallèle entre la France et la Tunisie, suite à l'interpellation de Salah Abdeslam. En France, pour les auteurs d'actes terroristes, on parle de déchéance de nationalité. En Tunisie, plus de 600 Tunisiens ont regagné le territoire national après avoir fait le djihad. Seulement quelques dizaines aujourd'hui sont en prison. Il y a dans les moyens, finalement, une différence énorme entre les deux pays.
D'abord, les chiffres, c'est pas les mêmes chiffres que j'ai. Je sais que déjà, quand ils reviennent en Tunisie, ils sont contrôlés, c'est vrai, aux frontières. Après, ils sont, après tout, on peut pas, on n'a pas assez de renseignements, c'est vrai, internationaux à ce niveau-là. On n'a pas de renseignements.
Mais est-ce que les autorités tunisiennes prennent assez à bras le corps le problème? C'est ça la question, par rapport aux autorités françaises.
Je vais vous assurer qu'en Tunisie, pratiquement toutes les zones à risque sont, on a des moyens de renseignement nouveaux qui sont arrivés, électroniques et tout ça. Il y a beaucoup. La structure de renseignement tunisienne devient de plus en plus effective. Ça, c'est c'est une très très bonne nouvelle. Et même quand ils arrivent en Tunisie, je vous assure que la Tunisie, c'est pas un grand pays. Nous sommes quand même 11 millions d'habitants, c'est l'équivalent de l'île de France uniquement. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un très très bon travail qui est fait au niveau sécuritaire. Mais c'est vrai qu'on manque de renseignements. Par exemple, il y avait une liste de 22 000 noms qu'ils ont dit apparemment en Angleterre. Ça pourra nous aider énormément, je pense. Mais en Tunisie, si jamais ils sont revenus, c'est que, à mon avis, pour la plupart, ce serait pas, c'est qu'ils se sont repentis. Et généralement, c'est la chose la plus grave, à mon avis, à ce niveau-là.
Jean-Yves Moisseron, vous êtes d'accord avec ce que dit Tarek Cherrou? Il y a une progression finalement des autorités tunisiennes pour lutter contre le terrorisme. Il évoquait Tarek Cherrou au début de cette émission le fait que finalement l'attentat il y a 11 jours à Ben Gardane aurait été bien pire il y a un an. Les forces de sécurité sont beaucoup plus mobilisées finalement sur le problème aujourd'hui de la radicalisation et du terrorisme.
Absolument. Ben Gardane, c'était pour l'État islamique une tentative de, pas seulement un attentat, c'était une tentative d'implantation territoriale et de prise de contrôle d'une ville, ce qui a totalement échoué. Effectivement, les forces de sécurité ont réagi relativement rapidement, il y a eu quand même des conflits, mais enfin l'opération était d'envergure de la part de l'État islamique et la réaction a été relativement efficace. Maintenant, l'arsenal juridique, sécuritaire, etc., c'est très bien, mais si on regarde la ville de Ben Gardane aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La frontière avec la Libye est fermée.
C'est à 30 km de la Libye.
Il y a pas mal de jeunes gens qui vivaient du commerce, du trafic avec la Libye. Aujourd'hui, ils sont totalement en déshérence. Et si on ne met pas en place toute une série de politiques qui vont permettre de développer la région, de la formaliser éventuellement le commerce, etc., mais donner un peu de respiration à ces gens qui vivent et qui aujourd'hui se sentent un peu abandonnés par l'État central, on risque d'avoir à nouveau des gens qui vont être tentés par le coup de main, par le djihad, etc.
Et on voit bien que cette région de l'Est de la Tunisie, frontalière de la Libye, effectivement, est clé dans la lutte contre le terrorisme. Merci bien Jean-Yves Moisseron, chercheur en économie à l'Institut de recherche pour le développement. Merci également à vous Tarak Cherrou, vous étiez en ligne depuis Tunis pour ce débat, journaliste et écrivain spécialiste des affaires sécuritaires, débat qui est maintenant terminé et que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.rfi.fr.